Le message que vous allez écouter a été prêché à l'origine par John MacArthur de Grace Community Church, qui se trouve au sud de la Californie. John est pasteur, auteur, président du Master College and Seminary. Il est également le prédicateur principal de Une Grâce pour vous, un ministère d'enseignement biblique par les médias diffusé dans le monde entier. Ce message, traduit en français, vous est présenté par Une Grâce pour vous et ses partenaires. Après cet enseignement, nous vous communiquerons les informations qui vous permettront de vous connecter sur le site Une Grâce pour vous. Maintenant, écoutez l'enseignement de John MacArthur qui vous expliquera la vérité de Dieu au travers des versets bibliques.
De temps en temps, quand je prends les journaux ici et là, mon attention est attirée par la colonne de Anne Landers. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est ainsi. J'ai récemment lu ceci dans sa rubrique. Chère Anne Landers, notre cocker spaniel, Rags, est décédé hier. Il avait 15 ans et tout le monde l'adorait. Il y a des souvenirs de ce cher animal partout. Une assiette, une peluche et la balle qu'il aimait poursuivre. Notre fils, Terry, qui a 9 ans, a demandé « Rags, est-il au ciel ? Le verrai-je quand je mourrai ?» J'ai demandé à notre pasteur comment répondre. Il a dit « Dites-lui non, les animaux ne vont pas au ciel. » Je crois que c'est une réponse insensible pour un enfant de 9 ans. Pouvez-vous m'en donner une meilleure ? Signé, San Juan. Cher San Juan, j'ai vérifié avec plusieurs autorités et la meilleure réponse est venue de Andrew McKenna, qui n'est pas théologien, mais vice-président du comité des directeurs de l'Université Notre-Dame. Et il a dit « Dites au garçon que le ciel est tout ce que vous désirez qu'il soit. Assurez-le qu'il verra tout le monde qu'il désire voir au ciel, y compris ses animaux. » Fin de citation. Le ciel est tout ce que vous voulez qu'il soit, et vous pouvez y voir tous ceux que vous voulez y voir, y compris vos animaux. Je dirais avec certitude que cet homme n'est pas théologien. Le ciel n'est pas tout ce que vous voulez qu'il soit. Le ciel est exactement ce que Dieu a fait de lui. Et nous étudions depuis quelque temps le ciel, le vrai ciel, le ciel préparé par Dieu pour son peuple. Nous avons posé une série de questions. Nous avons demandé qu'est-ce que le ciel, et nous avons essayé d'y répondre à la lumière des Écritures. Nous avons posé la question « Où est le ciel ?» et nous avons essayé d'y répondre. Ensuite, nous avons vu le thème « À quoi ressemble le ciel ?» et nous nous sommes tellement réjouis en voyant ce à quoi ce lieu ressemble réellement et ce qu'il nous réserve. Maintenant, je voudrais continuer ce soir en examinant une autre question. Il y en a encore quelques-unes à voir. Mais pour ce soir, je voudrais que nous répondions à la question. À quoi ressemblerons-nous au ciel? À quoi ressemblerons-nous? Pour vous donner une réponse générale, et ensuite nous allons creuser un peu plus en profondeur. La Bible enseigne que nous allons expérimenter la perfection éternelle du corps et de l'âme. Nous allons expérimenter la perfection du corps et de l'âme, c'est-à-dire la perfection de l'être tout entier. Le ciel est un endroit parfait pour des personnes rendues parfaites. Et puisqu'en tant qu'être humain, nous sommes intérieur et extérieur, âme et corps, ou si vous préférez, esprit et corps, nous serons parfaits en corps et en esprit pour toujours. Je voudrais en parler un petit peu ce soir pour que vous ayez une vue d'ensemble. L'idée de la rédemption de Dieu vise à nous rendre parfaits. Toute l'idée vise à nous adapter pour vivre éternellement dans la présence de Dieu. Voilà tout l'objectif du salut. Maintenant, je veux que vous me compreniez. Le salut est un processus. C'est par la foi que vous êtes venu à Christ, et vous êtes né de nouveau. Mais cela n'a fait qu'enclencher le processus, parce que vous n'êtes pas encore parfait. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul dit dans Romains 13 « Maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Nous sommes dans le processus du salut. Nous progressons vers l'ultime expression du salut quand nous serons rendus parfaits. » Cette œuvre du salut a déjà commencé par le salut de nos âmes, par la transformation de l'homme intérieur que nous connaissons comme la nouvelle naissance. Mais ce n'est pas la fin, ce n'est que le commencement. Quand vous avez mis votre foi en Jésus-Christ, vous êtes devenu une nouvelle créature. 2 Corinthiens 5, 17. Colossiens 2, 10 dit que vous avez tout pleinement en Christ. Et Pierre dit que vous avez maintenant tout ce qui contribue à la vie et à la piété. 2 Pierre 1, 3 et 4. Ainsi donc, vous êtes une nouvelle créature, complète en Christ, ayant tout ce qui contribue à la vie et à la piété. La vie de Dieu habite dans votre âme. Vous êtes une nouvelle personne à l'intérieur. Il y a la nouveauté en vous. Pour comprendre ceci, brièvement, et je ne veux pas y passer beaucoup de temps, parce que vous pouvez écouter la série sur Romains 6 et 7, mais juste pour l'effleurer. Ouvrez vos Bibles dans Romains 6, et voyons si nous pouvons commencer à bâtir une compréhension de ce que sera réellement le ciel pour nous tous, en termes de perfection de nos personnes. Maintenant, nous sommes devenus de nouvelles créatures en Christ. Nous avons reçu une nouvelle vie en Christ. La Bible dit que nous avons reçu un nouveau cœur. Nous avons reçu un nouvel esprit. Cela fait partie de ce que signifie être né de nouveau, converti, régénéré, racheté, devenu nouveau en Christ. Il dit au chapitre 6, verset 18, que nous sommes devenus esclaves de la justice. Au lieu d'expérimenter le salaire du péché, verset 23, qui est la mort, nous avons reçu le don gratuit de Dieu, qui est la vie éternelle. En fait, le verset 22 dit que nous avons été libérés du péché, et nous sommes devenus esclaves de Dieu. Le résultat est la sanctification, et l'issue finale, et la vie éternelle. Maintenant, ce sont là toutes les façons de dire que les changements drastiques se sont produits en nous. Nous ne sommes plus esclaves du péché. Nous sommes esclaves de Dieu. Nous ne sommes plus esclaves de la méchanceté. Nous servons la justice. Nous ne sommes plus possesseurs d'un principe qui conduit à la mort. Nous sommes possesseurs d'un principe qui mène à la vie. Nous sommes une nouvelle créature. Il le dit très clairement. En fait, l'ancienne créature est morte. L'ancienne créature est morte. Verset 11. Ainsi, vous-même, considérez-vous comme mort au péché. Une chose est morte, et une chose de nouveau vit. C'est cela, la vie nouvelle. C'est la partie régénérée de vous que Dieu a créée. Maintenant, puis-je retrouver votre compréhension lorsque nous avons parcouru cette partie de la Bible, et puis-je vous rappeler que le problème que vous avez, c'est que vous avez un homme intérieur nouvellement créé, incarcéré dans la chair. Incarcéré dans la chair. Au chapitre 7, veuillez remarquer comment Paul le souligne à partir du verset 15. Il dit « Car ce que j'accomplis, je ne le comprends pas. Et s'il ne le comprend pas, c'est parce que dans son cœur, dans ce nouvel homme intérieur, il aime ce qui est bien. Il recherche ce qui est bien. Mais il dit « Il y a une chose que je ne comprends pas. Je ne fais pas ce que j'aimerais faire. Ce que je hais, c'est ce que je fais. Si je fais ce que je ne veux pas faire, je suis d'accord avec la loi. » Et je confesse qu'elle est bonne. Le simple fait que je ne veuille pas le faire signifie que je reconnais la loi de Dieu. Ensuite, il dit au verset 17. Maintenant, ce n'est plus moi qui accomplis cela, mais le péché qui habite en moi. Voici un principe très important. Paul dit, je suis une nouvelle créature. J'ai en moi un nouveau principe de vie. Je suis dans un processus de sanctification. Je suis esclave de Dieu et le serviteur de la justice. J'ai un nouveau principe de vie en moi. Mais ce n'est pas gratuit, notez ceci. Il s'exprime pleinement à cause de la présence de quoi? Du péché, du péché. Je suis inhibé, je suis débilité, je suis limité dans ma faculté à vivre à cause de la loi de Dieu, à laquelle je prends plaisir à cause du péché. Maintenant, suivons cette pensée au verset 18. Car je le sais, ce qui est bon n'habite pas en moi. Maintenant, où est-ce? C'est-à-dire dans ma quoi, ma chair. C'est un autre terme pour désigner l'humanité. Dans mon humanité ou dans ma nature humaine déchue, il veut parler non seulement de son corps physique, mais de toute sa déchéance. Il a une pensée déchue, il a des émotions déchues, il a une volonté déchue. Alors voici le principe de cette nouvelle vie, la vie éternelle, la vie de Dieu dans l'âme de l'homme. Elle est là, mais incarcérée, dans la déchéance, dans un corps déchu. Une pensée déchue, des émotions déchues, une volonté déchue. La chair signifie beaucoup plus que la peau, les os et les tissus. Elle signifie la nature humaine. Alors voici le point que j'aimerais vous faire comprendre. Écoutez, bien-aimé, votre âme a été rachetée, et au fond de votre âme, ou de votre esprit d'homme, Dieu a implanté une nouvelle vie. La vie de Dieu est en vous par son esprit qui demeure en vous. Mais elle ne peut pas pleinement exprimer, notez ceci, même ce qui est dans votre âme, parce qu'elle est entravée par le péché. Il dit au verset 19, « Je ne fais pas le bien que je veux, mais je pratique le mal que je ne veux pas. Si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui l'accomplis, mais le péché qui habite en moi. Je reconnais qu'il y a encore ce principe dans ma nature humaine. » Et il dit au verset 21, « Je trouve donc cette loi pour moi qui veux faire le bien. Le mal est présent à côté de moi. Et au verset 22. Car je prends plaisir à la loi de Dieu dans mon fort intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi, qui lutte contre la loi de mon intelligence, et me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Il dit encore et encore que c'est dans sa chair, c'est dans son corps, c'est dans ses membres. Il l'appelle au verset 24 le corps de mort. Verset 25. Par ma chair, je suis esclave de la loi du péché. La chair, le corps, les parties du corps, les membres du corps. Tout cela renvoie à une humanité non rachetée. Ok? Maintenant, gardez ceci en tête. Dieu a implanté une nouvelle créature en vous. Le Saint-Esprit demeurant en vous est parfait. Cette transformation a eu lieu. Et les désirs du Saint-Esprit deviennent les vôtres. Et vous aimez la justice. Et vous aimez la bonté. Et vous aimez la vérité. Et vous aimez la droiture. Et vous aimez Dieu. Et vous aimez la Bible. Mais tout cela est entravé parce que votre âme et votre corps se battent encore avec leur condition déchue, dans laquelle loge le péché. Maintenant, je suis d'accord que l'autorité sur votre vie de péché a été brisée, mais la présence du péché n'a pas été éliminée, n'est-ce pas? En fait, 1 Jean dit, « Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous faisons quoi? Nous nous séduisons nous-mêmes. Alors, au plus profond de moi, je ne comprends pas ce mystère. » Mais au plus profond de votre âme éternelle, Dieu a planté la semence incorruptible de la vie éternelle, et vous avez une nouvelle puissance pour faire le bien. Vous avez un cœur nouveau et un esprit nouveau. Et tout cela, comprenez ceci, est un gage, une première traite de la plénitude de ce que vous aurez dans l'avenir. Mais cette nouvelle créature, ce nouveau cœur, ce principe nouveau, cet esprit nouveau, cette nouvelle vie est créée dans la chair. Elle est en difficulté dans la chair, pendant qu'elle s'efforce de conformer l'âme et le corps au standard de la justice de Dieu. Elle est confrontée à une véritable guerre, parce qu'elle se bat contre notre déchéance. La semence de la perfection éternelle est là. La semence de la vie éternelle incorruptible est là. Elle est plantée, notez ceci. Elle n'est pas encore pleinement épanouie. Aussi soupirons-nous après le jour où cela sera rendu parfait. Nous soupirons à être ce que nous serons. Regardez le chapitre 8, verset 23. Paul véhicule la même pensée au chapitre 8. Bien plus, nous aussi, deuxième expression, qui avons les prémices de l'esprit. En d'autres termes, qui avons le gage, qui avons reçu la première traite, qui avons reçu le nouveau cœur, la nouvelle vie, le nouveau principe, le nouvel esprit en nous, qui y avons goûté. Nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes. Et pourquoi soupirons-nous? En attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. En d'autres termes, nous avons eu un goût de ce qu'est une âme rachetée. Le comprenez-vous? Et donc nous vivons dans l'espérance. Nous soupirons en attendant ce que nous serons. Le péché a paralysé notre âme. Il a entaché notre esprit. Il a scarifié nos facultés de la pensée, de la volonté et des sentiments. Et ainsi donc, nous attendons le jour où cette semence éternelle, au-dedans de nous, éclorera pleinement, et nous serons rachetés de la tête aux pieds, de l'extérieur à l'intérieur. Le moment viendra, et quelle merveilleuse pensée, où Dieu lui-même, avec ses yeux pénétrants, discernera toute chose qui existe. Il nous scrutera, et me scrutera avec ses yeux perçants qui iront jusqu'à la plus petite partie de notre être, et ne trouveront absolument aucune trace de péché. Ne sera-ce pas incroyable, mais c'est ce qui arrivera. Dieu nous percevra dans chaque dimension de notre existence, absolument, parfaitement, et éternellement saint, juste et sans tache. Alors le ciel est le lieu de la perfection éternelle de l'âme et du corps. Nous perdrons toute notre déchéance. Nous entrons dans toute la perfection divine planifiée. Nous entrerons au ciel parfait. En fait, chers amis, personne d'imparfait n'entrera au ciel. Dans Apocalypse 6:11, une robe blanche fut donnée à chacun d'eux. Il s'agit des martyrs, et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que soient au complet leurs compagnons de service et leurs frères qui allaient être mis à mort comme eux. La robe blanche est le symbole de leur perfection absolue. La robe blanche est le symbole de leur sanctification et de leur pureté. Ils sont vêtus conformément à leur nouvelle nature, dans sa pleine expression. Dans Apocalypse 7, le verset 14 dit que ceux qui viennent de la grande tribulation ont lavé leurs robes et les ont blanchies dans le sang de l'agneau. et ici encore l'accent est mis sur la blancheur, sur la purification, la perfection des saints qui entrent dans les cieux des cieux, là où Dieu demeure avec ceux qui sont parfaits, ceux qui sont parfaits. Maintenant écoutez-moi, nous avons encore besoin d'une âme puissante, nous avons dans nos âmes, dans notre homme intérieur, la semence de la perfection, mais l'âme ou tout l'être intérieur n'est pas encore parfait. Écoutez, ce n'est pas seulement mon corps qui pêche, ce sont ma tête et ma pensée et mes émotions. Mon âme n'est pas encore parfaite, mais l'instant où un croyant meurt, son âme entre immédiatement dans la présence de Dieu et est instantanément rendue parfaite et sainte. Le corps va dans la tombe, l'âme va immédiatement au ciel. Voilà comment ça marche. Absent du corps, présent avec le Seigneur. De loin préférable de s'en aller pour être avec Christ. Paul dit dans Philippiens 1, 23. Je ne suis pas là, je suis avec Christ. Alors, quand un croyant meurt, son âme, jusque-là imparfaite, est instantanément rendue parfaite dans la présence de Dieu. Le corps va dans la tombe. La première chose que vous devez donc savoir est que nous allons au ciel sans corps, ok? Les chrétiens vont au ciel sans corps. En fait, en ce qui concerne l'Église de Jésus-Christ, tous les corps sont encore sur la terre. Tous les saints qui sont morts et qui sont maintenant au ciel y sont avec leur esprit ou leur âme, sans leur corps. C'est très clair pour nous. Et si nulle part ailleurs c'est marqué dans Hébreux, chapitre 12, où le verset 22 dit, « Mais au contraire, vous, vous êtes rapprochés de la montagne de Sion et de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades d'anges, de la réunion et de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux. Vous vous êtes approchés du ciel, vous vous êtes approchés de l'endroit où se trouve l'Église de Dieu, juge de tous. » Maintenant, écoutez ceci. Des esprits des justes parvenus à la perfection. Ce que vous avez au ciel, présentement, ce sont des esprits rendus parfaits. Vous dites, où sont les corps? Dans la tombe? En divers états de décomposition. Mais maintenant, posons la question. Tout d'abord, nous allons au ciel avec notre âme. Si je devais mourir aujourd'hui, mon âme irait au ciel. Mon corps irait à Forest Lawn, probablement. Mon âme ou mon esprit, c'est la même chose, serait avec le Seigneur. Maintenant, à quoi ressemblerait mon âme rendue parfaite? Bien, la seule chose que je peux vous dire, c'est que Dieu est à même de scruter mon âme parfaite jusqu'au énième degré, et il ne trouvera pas d'imperfection et pas de péché. Je serai absolument parfait. Je ne sais pas comment l'expliquer autrement. Alors, tout ce que je peux en dire, c'est que la perfection que nous attendons et que nous expérimenterons quand notre âme retournera auprès du Seigneur n'est rien d'autre que cette libération totale et éternelle de tout mal. Imaginez cela, imaginez cela. Plus jamais des pensées de péché, plus jamais de mauvaises paroles, plus jamais de paroles inutiles, plus jamais d'actes vilains. Une perfection absolue et éternelle, jamais souillée, jamais impure, jamais imparfait, jamais en train de faire quoi que ce soit d'autre que ce qui est absolument juste, saint et parfait devant Dieu. Pouvez-vous imaginer en train de vivre d'une façon aussi incroyable? Je trouve cela presque incroyable. Plus d'imperfection, absolument plus aucune. Le livre d'Apocalypse s'achève et dit très clairement ceci au chapitre 21, verset 27. Il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Aucune personne ayant une tache n'entrera dans la cité céleste, dans la demeure de Dieu, les cieux des cieux. Le chapitre 22 donne aussi la même information. Il dit au verset 14 « Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie, et d'entrer par les portes dans la ville. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Aucun de ceux qui ne sont parfaits n'y entrera. Il n'entrera dans cette ville rien de souillé. Pensez-y. Pas de péché, pas de souffrance, pas de peine, pas de douleur. Voulez-vous savoir une chose? Vous ne douterez plus jamais Dieu d'aucune façon. Il n'y aura pas de doute au ciel. Il n'y aura pas la crainte de déplaire à Dieu, parce que Dieu ne sera jamais déplu, parce que vous ne ferez jamais rien pour lui déplaire. Vous ne serez jamais plus tenté. Satan ne sera pas là-bas. Le monde ne sera pas là-bas. La chair ne sera pas là-bas. Il n'y aura plus de persécution là-bas. Il n'y aura pas d'abus. il n'y aura pas de division. Il n'y aura pas de discorde, pas de manque d'harmonie, pas de désunion, pas de haine. Il n'y aura pas de querelle, pas de lutte, pas de dispute, pas de désaccord. Tout le monde sera parfait, et tout le monde au ciel sera d'accord avec ce que j'enseigne depuis ces années. Il n'y aura pas de désappointement. Il n'y aura pas la colère. Il n'y aura pas d'effort. Il n'y aura plus de jeûne, parce qu'il n'y aura pas de raison de jeûner. Il n'y aura pas de repentance, parce qu'il n'y aura pas de raison de se repentir. Il n'y aura pas de confession de péché, parce qu'il n'y aura pas de péché à confesser. Il n'y aura pas de pleurs, parce qu'il n'y aura aucune raison d'être triste. Il n'y aura pas besoin de veiller, parce que il n'y aura aucun danger, aucune tentation, aucune épreuve du tout. Il n'y aura plus d'enseignement. Il n'y aura plus de prédication. Il n'y aura plus d'apprentissage. Il n'y aura plus d'évangélisation. Il n'y aura plus de témoignage. Il y aura un plaisir parfait dans ta présence. Il y a la joie. Le psaume 16 en parle. La connaissance sera parfaite. Nous connaîtrons comme nous sommes connus. Nous connaîtrons comme nous sommes connus. Nous sommes connus parfaitement et nous connaîtrons parfaitement. Il y aura un confort parfait. Vous serez au sommet du confort à chaque instant de l'éternité et vous n'aurez jamais un moment d'inconfort, ne serait-ce pour une fraction de seconde. N'est-ce pas incroyable? Une femme dit « Vous ne connaissez pas mon mari. Bien, nous ne serons pas inconfortables. » Luc 16, 25 dit « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie. C'est Abraham qui parle. Et de même que Lazare a eu les mots, maintenant, il est ici consolé, et toi tu souffres. L'enfer, c'est l'agonie. Le ciel, c'est le confort éternel, l'amour parfait. Maintenant donc, demeure la plus grande de ces choses, la charité. 1 Corinthiens 13, 13. Vous manifesterez une charité parfaite. Vous serez aimé d'un amour parfait. Vous aimerez tout le monde d'un amour parfait. Tout le monde vous aimera d'un amour parfait. Vous aimerez Dieu parfaitement. Il vous aimera à la perfection. Vous aimerez comme Jésus a aimé. Jean 13, 1 dit qu'il a aimé ses disciples à la perfection. C'est exactement de cette façon que vous aimerez. Vous serez aimé par Dieu. Dieu embrassera votre âme. L'amour qui était faible, affamé, tenté, moqué et haï, raillé, méprisé. Cet amour qui était secoué, crucifié et transpercé. Cet amour qui pleura et saigna, transpira et mourut. Cet amour pour vous vous enlacera éternellement, et vous l'enlacerez, et vous et moi, nous nous perdrons dans l'amour éternel. Maintenant, tout ceci résume la joie parfaite, et nous pourrions simplement dire que le ciel est un lieu de joie non mêlée et infinie, une joie non mêlée et infinie. Quelle que soit la joie qu'il y a dans ce monde, elle est mélangée avec de la tristesse, n'est-ce pas? Vous éprouvez un peu de joie, et vous ne pouvez pas pleinement jouir, parce qu'il y a beaucoup d'autres problèmes. La joie est mélangée dans cette vie. Au mieux, elle est mêlée à la tristesse et à la douleur, au découragement, aux déceptions, à l'inquiétude, à l'usure et à l'anticipation. S'il n'y a pas de problème maintenant, je ne me réjouis pas beaucoup, parce que dès que le jour change, viendra un jour de problème. Vous ne pouvez jamais profiter d'un jour à cause de ce que demain pourrait réserver. Toutes nos joies sont mitigées par le péché. Toutes nos joies sont mitigées ou inhibées de chagrin. Toutes nos joies sont mitigées ou inhibées par la tristesse. Et cette vie est faite de pleurs, 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 pleurs et de lamentations. Quand nous voyons ce qui se passe réellement, mais quand vous arrivez au ciel, ce sera la joie, la joie, la joie, absolument une joie pure. Regardez Matthieu 25. Je vous dis juste ce que votre esprit sera là-haut. Et tout se résume en une joie pure et infinie. Matthieu 25, vous souvenez-vous de la parabole de notre Seigneur? C'est comme un homme sur le point d'aller en voyage. Il appelle ses esclaves, verset 14 de Matthieu 25, et il leur confie ses biens. À l'un, il donna 5 talents, à l'autre 2, et au troisième 1, à chacun selon ses capacités, et il partit en voyage. Immédiatement, celui qui avait reçu les 5 talents alla les investir et en gagna 5 autres. Et celui qui avait reçu 2 talents les fructifia et gagna 2 autres. Celui qui avait reçu 1 talent s'en alla et creusa dans le sol et cacha l'argent de son maître. Il est ici question du privilège spirituel. certains hommes ont utilisé leurs privilèges spirituels et ont obtenu la bénédiction. D'autres ont pris leurs privilèges spirituels et l'ont gaspillé. Le maître des esclaves rentre, fait les comptes avec eux. Au verset 20, celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents et dit « Seigneur, tu m'avais confié 5 talents. Voici 5 autres que j'ai gagnés. » Son maître lui dit « Bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses. Je t'établirai sur beaucoup. Entre dans quoi ? La joie de ton maître. Voilà de quoi est fait le ciel. Je t'établirai sur beaucoup de choses. Entre dans la joie de ton maître. Vous aurez une joie non diluée au ciel. Vous allez entrer dans la joie du Seigneur. Vous serez aussi établi sur certaines choses. Nous en parlerons dans notre prochaine étude. » Celui qui avait reçu 2 talents n'avait pas un privilège spirituel aussi magnanime que celui du premier, mais il le prit et en fit quelque chose. Et dit au verset 23, « Bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je t'établirai sur beaucoup, entre dans la joie de ton maître. » Et vous vous souvenez de celui qui n'avait rien fait de son privilège spirituel. Le Seigneur lui ôta ce qu'il avait, et au lieu d'être dans la joie, le verset 30 dit, « Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors. Là-bas, il n'y aura pas la joie, mais il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Maintenant donc, le ciel est un lieu de joie. La caractéristique dominante du ciel est la joie. La joie qui naît de toutes les merveilleuses choses que je vous ai citées. La joie, et toute joie que vous éprouvez maintenant, n'est qu'un avant-goût de la joie qui vous est réservée. Le ciel est absolument défini dans sa pureté, dans les termes les plus simples, comme un lieu d'une joie pure et infinie. Maintenant, pourquoi disons-nous infinie? Eh bien, elle doit être infinie parce que les conditions remplies pour qu'elle soit pure ne changent jamais. L'avez-vous compris? Puisque les conditions du ciel ne changeront jamais, tout ce qui produit la joie la produira pour toujours, et toujours parce que les conditions ne changent pas. La perfection céleste n'est jamais altérée. Elle n'est jamais altérée. En passant, l'enfer, c'est l'opposé. L'enfer est un lieu de souffrance pure et de tourment sans fin. Au ciel, vous avez une vie éternelle de satisfaction pour toutes les aspirations de l'âme rachetée. C'est donc un lieu où l'esprit et l'âme seront rendus parfaits pour toujours. Laissez-moi aller un peu plus loin. Nous n'avons pas été créés pour être des esprits sans un corps et flotter sous une forme d'esprit. Nous pouvons fonctionner en dehors d'un corps. Je peux appeler quelqu'un au téléphone et lui parler, et je ne sais pas ce que fait son corps. Pourtant, je peux toujours communiquer avec lui. Je peux rédiger ou recevoir une lettre de quelqu'un, et je communique avec son esprit, son homme intérieur, sans avoir aucun contact avec son corps. Nous pourrions communiquer. Dieu peut reprendre nos corps, comme il le fait souvent, nous mettre au ciel en tant qu'esprit, et nous serons toujours une entité spirituelle tout comme Dieu est une entité spirituelle. Mais ce n'est pas ce à quoi nous avions été destinés. Quand Dieu créa l'homme, il le créa âme et corps. Il fit un homme extérieur et un homme intérieur. Et quand il le rendra parfait, il le fera aussi homme extérieur et homme intérieur. Dieu nous a créés afin que nous soyons corps et âme. Et notre perfection finale demande que nous ayons un corps et une âme. Et la création d'un nouveau ciel et d'une nouvelle terre requiert aussi que nous ayons des corps pour marcher sur une vraie terre. La nouvelle terre exige donc que ses habitants aient de vrais corps. Maintenant, la mort, notez-le, la mort signifie la séparation. Les corps vont dans la tombe, l'esprit va être avec le Seigneur. Eh bien, combien de temps cela durera-t-il? Seulement jusqu'à la résurrection. Jésus a dit dans Jean, chapitre 5, que tout le monde ressuscitera des morts, tout le monde. Dans Jean 5, verset 28, « Ne vous étonnez pas, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront sa voix. Ceux qui auront fait le bien en sortiront pour la résurrection et la vie, ceux qui auront pratiqué le mal pour la résurrection et le jugement. » Maintenant, de nos jours, les chrétiens qui sont morts sont au ciel en esprit. Jusqu'à nos jours, les non-croyants qui sont morts sont en enfer en esprit. Mais il y aura une grande résurrection, et au moment de la résurrection, les corps des rachetés seront joints à leur esprit, et ils auront un corps et une âme parfaits pour l'éternité. Au moment de la grande résurrection, les corps des impies ressusciteront de la mort aussi. Ils seront rattachés à leur esprit, afin qu'ils puissent endurer les tourments de l'enfer pour toujours. Dieu avait créé les hommes et les femmes pour qu'ils aient l'âme et le corps, ou le corps et l'esprit. C'est la même chose. Alors, c'est vers ceci que Dieu se dirige. Même après que nos âmes soient rendues parfaites, ce n'est pas la fin. Ce n'est pas la fin. Il y aura une résurrection du corps pour rejoindre l'esprit. C'est cela le plan de Dieu. Vous pouvez lire au sujet de la résurrection des impies dans Apocalypse, chapitre 20, en commençant au verset 11. La mer rend ses morts. La mort et la tombe rendent leurs morts, et ils sont tous jugés selon leurs actes. Ensuite, bien sûr, ils sont jetés dans le lac de feu. Il y aura une résurrection pour la condamnation, une résurrection pour le jugement. Mais qu'en est-il de la résurrection? Qu'en est-il de la rédemption de nos corps? Et vous souvenez-vous dans Romains 8, j'ai dit plus tôt que nous attendons le rachat de nos corps. Nous attendons ce que 2 Corinthiens 5, 2 appelle notre domicile céleste, un domicile qui n'est pas fait de main d'homme, éternel dans le ciel. Regardez 1 Thessaloniciens chapitre 4, un texte très familier. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 13. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. Et c'est une référence au corps des saints. Leurs esprits sont allés être avec le Seigneur. Leurs corps sont dans les tombes, afin que vous ne vous attristiez pas comme les autres qui n'ont pas d'espérance. En effet, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera aussi par Jésus, et avec lui, ceux qui se sont endormis. Quand Jésus reviendra, il amènera avec lui les esprits des saints qui sont morts. Quand aura lieu l'enlèvement et que Jésus descendra du ciel, les esprits des saints viendront avec lui. Voici en effet ce que nous déclarons, verset 15, d'après une parole du Seigneur, nous les vivants, nous qui serons encore ici en corps et en esprit, pas encore glorifiés, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui se sont endormis. En d'autres termes, ils recevront leur corps avant qu'on ne monte. Pourquoi? Parce qu'ils auront attendu longtemps. Certains d'entre eux, flottant comme des esprits sans corps, dans une humanité non encore rendue parfaite, parce que n'ayant pas encore de corps. Alors, quand Jésus viendra pour l'enlèvement, l'Église, le premier groupe dont il s'occupera, est celui de ceux qui ont été séparés de leur corps. Ils recevront leur nouveau corps, et nous irons à leur suite. Il dit au verset 16, « Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront en premier lieu. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons enlevés ensemble avec eux dans les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. C'est un autre trait du ciel. Vous serez toujours avec le Seigneur, d'éternité en éternité, en éternité. Mais les morts iront premièrement parce qu'ils attendent leur corps depuis longtemps. Leurs corps sortiront des tombeaux, s'attacheront à leur esprit, seront instantanément rendus parfaits pour tout ce que le ciel leur réserve. Ensuite, nous les suivrons, et nous serons changés en chemin, et nous serons rendus parfaits quand nous quitterons ce monde lors de l'enlèvement, si nous sommes encore vivants, quand Jésus reviendra. Maintenant, c'est la promesse de Dieu que nous devons attendre, un corps glorifié pour convenir à un esprit glorifié. Cette tente terrestre, dit Paul, sera détruite, et nous recevrons un édifice de Dieu. Maintenant, cela pose la question sur laquelle je voudrais me focaliser, alors que nous concluons ce soir. À quoi ressembleront ces corps? À quoi ressembleront-ils? L'âme, dans son état parfait, notez ceci, doit avoir un corps dans un état parfait pour s'exprimer pleinement. L'âme humaine est limitée dans son expression sans corps, parce que nous sommes cette parfaite combinaison. Mais à quoi ressemblera le corps? Allons dans 1 Corinthiens 15. Tellement de choses peuvent être dites sur ce sujet. Je vais essayer de me mordre la langue pour continuer rapidement. Verset 35. Quelqu'un dira, et je peux l'entendre, vous l'avez déjà pensé, comment les morts sont-ils ressuscités? Avec quel type de corps sortent-ils? Je vois quelqu'un dire, ah, vous voulez rire, une résurrection des corps. Les gens auront été dans la tombe des siècles durant. Il n'y aura là rien d'autre qu'un tas de poussière. Et que dire de ceux qui s'étaient brûlés, de ceux qui avaient explosé? Le Seigneur ira-t-il ramasser tous les morceaux? Et ceux qui s'étaient noyés dans les océans? Et ils se sont désintégrés dans l'océan pendant des siècles et des siècles et des siècles. Comment les morts sont-ils ressuscités? Un auteur, Charles Ball, a dit « La limitation de notre connaissance actuelle rend quasi impossible la compréhension de la résurrection des corps. Nous posons des questions sur la chair qui est enterrée dans les tombes et réduite aux éléments ou réduite en cendres ou dissoute dans la mer. Est-ce possible que ces éléments dispersés soient rassemblés avec la même structure moléculaire qu'à l'heure de la mort? Certains ont ridiculisé cette notion en se faisant une image d'un corps dans la tombe qui se désagrège sous l'action de la pluie et la chaleur du soleil et qui, avec le temps, fertilise les herbes au-dessus. Et là où une vache broute, la vache produit du lait qui est consommé à table lors du petit déjeuner et nourrit une autre génération. Et qui dans le monde peut savoir quelle molécule appartient à cette personne? Eh bien voilà le type de raisonnement auquel vous faites face. Et ils disent que Dieu a une équation impossible pour déterminer les molécules des gens. Bien, je ne veux même pas m'engager dans de telles stupidités. Si Dieu pouvait nous créer, il peut nous recréer. Nous n'avons pas à réfléchir de cette façon. Il y a des changements constants dans les cellules de nos corps dans cette vie. Nous ne sommes même plus les mêmes que nous étions il y a 3 ans. Les cellules de nos corps meurent tous les jours. De nouvelles cellules s'installent. Je déteste le dire, mais c'est vrai. La plus grande partie de la poussière dans vos maisons est constituée de la dégradation de la peau humaine. Environ 75% d'après mes lectures. Cela vous choque-t-il? Oui, vous êtes remplacé. Cela dépasse notre entendement, les amis. Mais d'une façon ou d'une autre, un nouveau corps sera formé pour accommoder une âme éternellement parfaite. C'est un édifice qui n'est pas fait de main d'homme. C'est un édifice éternel. Les Grecs avaient l'habitude de dire que le corps est la prison qui confine l'âme. Non, ce n'est pas cela. Le corps est le véhicule pour exprimer l'âme. Voilà l'idée. C'est un véhicule pour exprimer l'âme. Maintenant, à quoi ressemble-t-il? Eh bien, retournons au verset 36 et faisons la découverte. À quoi ressemble-t-il? Insensé, il dit. Et c'est gentil, parce que vous ne devez même pas tenir de telles discussions. Ce que tu sèmes ne reprend pas vie. S'il ne meurt, le terme grec insensé est une réprimande sévère en passant, qui suppose que l'objecteur se vantait de son intelligence. Vous ne savez même pas de quoi vous parlez. Laissez-moi vous donner une analogie d'une semence. Il dit que ce que vous semez ne reprend pas vie s'il ne meurt, et ce que vous semez, ce n'est pas le corps à venir, c'est un simple grain, de blé peut-être, ou de quelque autre semence. Puis Dieu lui donne un corps comme il le veut, et à chaque semence, il donne un corps qui lui est propre. Il dit, regardez simplement cette analogie. Vous avez une petite semence dans la main. Vous la mettez en terre. Cette semence ressemble-t-elle en quelque point à ce qu'elle va produire? Bien sûr que non. Je vous assure, il y a une différence énorme. Le principe de vie est dans la semence, mais il n'y a aucune façon de savoir, si vous n'avez pas l'expérience, que ce type de semence deviendra ce type de plante. La semence meurt, c'est la première chose que fait une semence. Maintenant, expliquez-le-moi parfaitement, et je serai aussi dépendant de votre explication de la résurrection. Comment se fait-il qu'une chose doive mourir pour donner la vie? Comment est-ce possible? Comment une semence peut-elle aller en terre, se décomposer et produire la vie? Je ne sais pas. Je ne le comprends pas. Et pourtant, est-ce possible qu'un arbre monstrueux sorte de cette petite chose? Il y a une énorme différence. Mais Paul dit que votre corps mourra. Il ira dans la tombe et n'en sortira. Et c'est exactement comme une graine qui meurt dans une analogie et produit une plante que vous n'auriez jamais pu voir dans la graine. Jamais.
Jésus l'avait même dit,
parlant de sa propre résurrection. Jean 12:24. Si le grain de blé ne tombe en terre et ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Il disait, « Je vais mourir et faire la même chose. Je vais porter du fruit. Je vais sortir dans un corps glorieux de la résurrection qui va porter du fruit. » Le mystère du corps de la résurrection, chers amis, n'est pas différent du mystère de la semence. Pas différent. Et si vous allez dire, « Bien, je ne crois pas à la résurrection parce que je n'en comprends pas le processus. » Alors ne croyez pas non plus à la récolte parce que vous ne comprenez pas ce processus. Mais cela est possible. Ainsi en est-il de la résurrection. C'est l'argument de Paul.
Les corps auront une connexion avec ceux qui avaient été enterrés, mais ils seront différents. Je ne sais pas vraiment comment. Ils seront le même organisme d'une façon, je serai moi et vous serez vous. Seulement, nous serons tous parfaits. Nous serons les mêmes et pourtant différents. Incroyable ! De la décomposition du corps dans la tombe, nous n'avons pas d'obstacle à la résurrection. Tout comme une semence qui meurt et produit la vie, ainsi la résurrection viendra de la mort d'un corps. Regardez le verset 39. Puis il prend une autre illustration, de la semence. Il tourne et commence à parler du corps. Toute chair n'est pas la même chair, mais autre est celle des hommes, autre la chair des animaux, autre la chair des oiseaux, autre celle des poissons. Maintenant, comment expliquez-vous cela? Je veux dire, partout sur cette terre, il y a toutes sortes de chairs, différentes sortes. La différence dans la chair des animaux est déterminée par des acides aminés. Connaissez-vous les acides aminés? J'ai lu qu'il existe 600 octodécillions de combinaisons d'acides aminés. C'est énorme. Et c'est ce qui produit la chair. C'est ce qui produit un certain type de chair. Vous produisez la chair. Vous produisez votre propre chair, je produis la mienne. Peu importe ce que je mange, je produis la chair. Si je mange le poulet tout le temps, je ne développe pas les plumes. Pourquoi? Pourquoi? Parce que les acides aminés dans mon corps ne reproduiront qu'en combinaison avec ma chair. Alors peu importe ce que je mange. Je ne mange que des hamburgers. Je ne vais pas meugler. Je ne vais pas développer une queue. Je ne vais pas devenir comme une vache. Pourquoi? Parce que la structure des acides aminés que Dieu a mis dans la chair la distingue. Dieu n'était pas restreint par un type de chair à la création. Pourquoi le devrait-il à la résurrection? Nous pourrions ne même pas comprendre quel type de nouvelle humanité c'est, pas plus que si les oiseaux étaient tous que nous connaissions, et leur type de chair, nous comprendrions à cheval. Ensuite, il dit au verset 40, « Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres, mais autre est l'éclat des corps célestes, autre celui des corps terrestres, c'est-à-dire qu'il y en a de célestes et de terrestres. Il y a des organismes terrestres et il y a des corps qui occupent l'espace, le soleil, la lune, les étoiles. C'est incroyable. Dieu a tout fait, du plus petit insecte à l'immense soleil et tout ce qui a une taille intermédiaire. Et de la perspective humaine, nous voyons ces choses et comment pouvons-nous donc dire « Bien ». Je ne comprends pas comment il arrivera à faire un corps de la résurrection. Bien, écoutez, il peut faire n'importe quel corps s'il le désire. Autre est l'éclat du soleil, verset 41. Autre l'éclat de la lune. Et autre l'éclat des étoiles. Même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. C'est tout simplement comme ça. Il y a tout type de corps fait par Dieu. Les corps des animaux, les corps des plantes, le soleil, les corps célestes, les étoiles, la lune, les comètes, et ainsi de suite. Je ne sais pas si vous y avez déjà pensé. Je lisais dans le Reader's Digest, il y a quelques années, un article de Donald Peedy, et il disait ceci. Comme les fleurs, les étoiles ont leur couleur. À première vue, tout semble blanc et cristal. Mais choisissez l'une et l'autre pour les observer, et vous verrez un spectre subtil dans les étoiles. La qualité de leur lumière est déterminée par leur température. Dans un ciel de décembre, vous verrez Aldebaran comme rose pâle, teinte blanche bleutée. Bételgeuse, orange tirant vers un jaune topaze. Fin de citation. En d'autres termes, même les étoiles sont différentes. Réalisez-vous qu'il n'existe pas deux arbres identiques sur la surface de la Terre, pas de semences identiques, pas deux animaux identiques, pas de personnes identiques. Pas de corps céleste identique. Et quelqu'un dit, comment est-ce possible que Dieu crée un corps de la résurrection? Il a assez de puissance créative à déployer que nous ne devons pas remettre en question. Verset 42. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Les illustrations de la nature, les illustrations de l'astronomie, nous montrent que Dieu peut créer n'importe quel corps qu'il veut. De même qu'un corps diffère d'un autre, de même, un corps de la résurrection peut différer de celui que nous connaissons maintenant. Il y a la possibilité que Dieu créera un corps unique, un corps que l'on ne comprend pas. D'une façon ou d'une autre, il se connectera à nous. Il aura en lui notre personnalité humaine. Mais il sera éternellement préservé, avec toutes ses distinctions, toute son unicité, dans une perfection absolue et éternelle. et donc les cimetières des hommes deviennent des pépinières de la résurrection, et les cimetières du peuple de Dieu deviennent à travers la rosée du ciel les champs de résurrection pour la perfection promise. Ensuite, au verset 42, « Semé corruptible, on ressuscite incorruptible. » Et ici vient le contraste. « Semé corruptible, on ressuscite incorruptible. » C'est là la différence. Puis il dit, « Semé méprisable, on ressuscite glorieux. Semé plein de faiblesse, on ressuscite plein de force. Semé corps naturel, on ressuscite corps spirituel. » Maintenant, que veut-il dire par un corps spirituel? Il ne veut pas dire que c'est un esprit, c'est un corps, mais c'est un corps qui peut contenir, un corps qui peut se contenir et s'exprimer spirituellement. Pour le dire simplement, c'est un corps qui exprime l'esprit, les besoins d'un esprit parfait. Regardez maintenant, à quoi ressemblera votre corps? Il sera impérissable, c'est-à-dire qu'il ne pourrira jamais. Vous ne perdrez jamais aucune partie de ce corps. Votre peau ne changera pas tous les 7 ans. Il n'y aura aucun processus d'élimination dans votre corps. C'est un corps impérissable. Il sera permanent et éternellement parfait. Ne changera jamais, jamais. Vous ne direz jamais, « Qu'est-ce que c'est que ça? Je n'ai jamais vu ça. » Après avoir regardé vos mains, vous n'allez jamais palper votre corps et dire, « D'où vient donc cette tumeur ?» Il n'y aura pas de cancer, pas de rayon X au ciel. Personne n'y développera rien. Une perfection absolue, incorruptible. Pas seulement cela. Il sera glorieux. Glorieux. Il sera un réflecteur de la gloire de Dieu. Il ressuscitera en puissance. Il aura la puissance de l'au-delà, de tout ce que vous pouvez imaginer. Le pouvoir de voler. Le pouvoir d'accomplir tout et n'importe quoi. Ce sera un corps spirituel, dans le sens où il donne une expression à un esprit renouvelé, un esprit parfait. C'est incroyable d'y penser. Il est adapté à l'existence des rachetés selon un ordre du ciel, dont nous ne savons rien à ce point. C'est tout simplement incroyable. Au verset 45, il nous amène un pas plus loin et dit, « C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint un être vivant. Le dernier Adam, c'est-à-dire Christ, est devenu un esprit vivifiant. Il contraste deux chefs de famille. Il fait appel aux Écritures ici pour soutenir son argument. Et il dit que le dernier Adam est un esprit vivifiant. Jésus-Christ est le dernier Adam. Il donnera une vie. Il donnera la vie là où Adam donna la mort. Adam, l'homme naturel, pécha et entraîna la mort sur la race humaine. Le dernier Adam apporte la vie. Le spirituel n'est pas le premier. C'est ce qui est naturel. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme est tiré de la terre. Il s'agit d'Adam, et terrestre. Le deuxième homme vient du ciel. Arrêtez-vous à ce niveau, les amis. Vous venez d'avoir une énorme révélation. Si nous sommes sur cette terre comme Adam, nous serons au ciel comme qui? Comme Christ. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image de quoi? Du céleste. C'est incroyable. Nous serons comme Jésus-Christ. Nous serons exactement comme Jésus-Christ. Eh bien, à quoi ressemblait-il? Il était incorruptible et éternel. Il est glorifié et nous le serons. Il est spirituel, c'est-à-dire qu'il donne expression à un esprit rendu parfait à travers son humanité glorifiée, et ainsi serons-nous. Nous posséderons, selon Philippiens 3:21, une grande déclaration, le corps de sa gloire. Je n'arrive pas à me l'imaginer. Mais voyez-vous, nous avons été sauvés pour être conformes à l'image du Fils de Dieu. Nous sommes prédestinés à être conformes à l'image de son Fils, dit Romains 8. Nous serons comme lui. 1 Jean 3:2. Parce que nous ferons quoi? Nous le verrons tel qu'il est. Nous serons comme lui. À quoi ressemblait-il? C'est incroyable d'y penser. Il s'est envolé au ciel. Il s'est tenu sur la montagne dans Actes chapitre 1, et une nuée l'a enlevé au ciel. Il pouvait s'envoler. Il se déplaçait. Il apparut soudainement, après sa résurrection, dans cette humanité glorifiée. Il passa à travers les murs. Il nous est dit dans Luc 24 qu'il s'est assis avec les disciples et a mangé. À une occasion, il a rompu le pain. À une autre, il a mangé du poisson. Il a demandé à manger. On lui a porté à manger, et il a mangé. Et Apocalypse 22 dit qu'il y aura des arbres fruitiers au ciel pour la santé et la guérison des nations. De même que Christ mangea après la résurrection, de même nous mangerons. Et il n'avait pas besoin de manger. Il mangea juste pour le plaisir et la joie de manger. Alors nous passerons l'éternité à manger du fruit des arbres célestes, non par nécessité, mais par plaisir. Je ne sais pas comment ça va marcher. Je ne sais pas comment on peut manger le fruit éternel et ne pas en être changé. Je ne comprends rien de tout cela, mais ce sera certainement passionnant. Nous serons comme Christ. Il pouvait aller partout où il voulait. Il avait le pouvoir d'apparaître et de disparaître. Il avait le pouvoir d'infuser sa force aux hommes. Il avait le pouvoir même, dans sa résurrection, bien sûr, de faire des choses miraculeuses comme il le fit par ses disciples. Il marchait, il parlait, il pouvait le toucher, il pouvait le sentir. Il parlait, il mangeait. Nous ferons toutes ces choses seulement dans une humanité glorifiée qui nous est encore inexplicable. Eh bien, il y a tellement de choses à dire encore, mais quand vous pensez à Jésus après la résurrection, c'est la meilleure image de ce que nous serons. Un corps adapté à la pleine vie de Dieu pour demeurer et s'exprimer éternellement. Un corps qui peut manger, mais qui n'en a pas besoin. Un corps qui peut voler à travers l'espace et passer par les murs. Un corps qui n'est pas limité par le temps, qui n'a pas d'âge. Un corps exalté pour tout ce que Dieu a en pensée dans le potentiel de la création. Un corps qui est pleinement satisfait, qui ne connaît ni douleur, ni larmes, ni tristesse, ni maladie, ni la mort. Un corps de splendeur, un corps qui brille comme la lune et les étoiles, selon Daniel 12, la promesse aux saints de l'Ancien Testament à leur résurrection. Un corps aussi luisant que le soleil à midi, un corps qui brille comme le soleil et sa force. Quelle chose incroyable à laquelle penser, quelle incroyable chose! J'aimerais que vous écoutiez en conclusion. Je vais conclure dans 2 minutes environ. Qu'est-ce que cela veut dire pour vous? Laissez-moi vous dire ce que cela signifie pour moi. Cela signifie que notre désir du ciel doit être intense. Il doit être intense. Je vais vous le simplifier. Si vous trouvez votre joie et votre confort dans cette vie, si vous trouvez vos délices dans cette vie, au point où le ciel ne vous intéresse pas, c'est irrationnel. C'est irrationnel. Je vais vous dire pourquoi. Premièrement, vous idolâtrez un monde éphémère, plein de péchés et en décomposition. Deuxièmement, vous contredites l'objectif de Dieu. L'objectif de Dieu est de vous rendre comme Christ, et c'est là-bas que vous devrez aller pour devenir cet objectif. Alors si vous désirez vous accrocher à ce monde, et vous ambitionnez de rester ici, et vous ne voulez pas partir, et c'est ici que vous recherchez votre confort, et c'est ici que vous amassez votre trésor, vous êtes à la fois irrationnel et pécheur. Et je le suis aussi si je réfléchis de cette façon. Parce que nous idolâtrons un monde éphémère en ruine, sans Dieu, qui rejette Christ, nous contredisons l'objectif de Dieu. Plus encore, nous cherchons ce que nous ne trouverons jamais, et par conséquent, nous aggravons notre misère, parce que nous ne serons jamais satisfaits. Comme c'est préférable de désirer le ciel. Nous devons soupirer après le ciel, comme un prisonnier soupire après la liberté, comme un malade aspire à la santé, comme celui qui a faim aspire à manger. Comme celui qui a soif désire de l'eau, nous devons aspirer au ciel, comme le cultivateur à la récolte, comme l'ouvrier au jour de la paix, comme l'athlète à la victoire. Sinon, alors quelque chose ne va pas. Si nous ne disons pas avec Jean, « Viens, Seigneur Jésus, viens !» Quelque chose ne va pas quand nous pensons à ce que Dieu a pour nous. Si vous n'êtes pas chrétien, n'ayez pas pitié des chrétiens, n'ayez pas pitié de nous. Je sais qu'il y a des gens qui pensent que nous avons une vie ennuyeuse, et tous nos plaisirs ont été gâchés, parce que nous avons tourné le dos aux choses du monde. Mais je voudrais que vous sachiez, les amis, n'ayez aucune pitié pour nous, mais pour vous-même. Nous avons joui du meilleur de la vie dans le Seigneur, et nous passerons l'éternité avec les gloires de sa promesse, pendant que ceux qui se tiennent à l'écart et s'apitoient parce que les chrétiens ratent une fête passeront l'éternité sans Dieu, dans le tourment de l'enfer. Tout ce qu'il y a de glorieux, tout ce qu'il y a de noble, tout ce qu'il y a de béni et tout ce qu'il y a de passionnant nous attend au ciel. J'espère que vous y serez. J'espère que si vous êtes en marche pour le ciel, vous aspirez dans votre cœur à cette réunion avec Christ. Prions ensemble. Père, merci pour notre temps ce soir. Quel merveilleux moment dans ta parole, et qu'est-ce que nous nous réjouissons de ce que tu as planifié pour nous. Et bien que l'œil n'a point vu et l'oreille n'a point entendu, et que ce n'est pas encore monté dans le cœur de l'homme, ces choses que tu as préparées d'avance pour nous, nous ne pourrons jamais le comprendre. Ce petit aperçu suffit à remplir nos cœurs de joie. Je prie que tout homme ici soit préparé pour l'inévitable jour de la mort, afin que ce jour-là, ils entrent dans les cieux des cieux, et qu'ils n'expérimentent pas la colère de Dieu, qu'ils puissent connaître la joie à perpétuité, et non les pleurs, les lamentations et les grincements de dents. Et Père, pour ceux d'entre nous qui vont au ciel, remplis-nous d'anticipation, aide-nous à ne pas nous accrocher au monde et aspirer à être avec toi. Aide-nous à nous lasser du péché, avoir la vanité de ce monde, à investir tout ce que nous avons, à désirer le ciel. Aide-nous, comme le disait Paul aux Colossiens, à nous affectionner aux choses d'en haut et non aux choses de la terre. Aide-nous à soupirer après ce jour où nous échangerons ces corps vils, comme Paul le disait aux Philippiens, contre le corps glorieux qui est comme le corps de Jésus-Christ, cette perfection de corps et d'âme qui nous attend, nous qui sommes des citoyens du ciel. Aide-nous à aspirer à cette transformation. Nous te remercions pour cette heureuse espérance gravée dans nos cœurs, parce que tu nous as suffisamment parlé du ciel pour nous donner ce désir. Nous te remercions pour ta grâce, pour ce que tu nous donnes dans cette vie, et ce que tu as préparé pour nous dans la vie à venir. Amen.
Pour de plus amples renseignements, ainsi qu'un accès gratuit aux leçons de John, connectez-vous à Une Grâce pour vous sur le site gty.org. Le site vous offre la possibilité d'acheter la Bible d'étude de MacArthur, qui est la principale ressource financière du ministère de John. Le site vend toutes les traductions disponibles. Par contre, il n'est pas possible de la fournir gratuitement pour chaque pays où ce message est entendu. John MacArthur et Une Grâce pour vous sont dépositaires du copyright pour tous ces messages. Nos conditions en ce qui concerne la duplication des messages sont indiquées sur le site gty.org.